Le serment brisé. À peine revenu en Bretagne, Charles entame la reconstruction de son pouvoir. Il réorganise ses soutiens féodaux, renforce ses alliances locales et consolide ses possessions dans le nord et l'est du duché, Dinan, Guingamp, Morlaix, avec le soutien actif de son épouse Jeanne de Penthièvre. Comme le souligne l'historienne Laurence Moile, Charles de Blois doit d'abord reconstruire son réseau avant d'envisager une reconquête. Les chroniques de Jean Froissart évoquent des escarmouches et des sièges mineurs entre 1357 et 1362, mais aucune offensive majeure. Charles semble attendre un contexte plus favorable, espérant un appui renforcé du roi de France. Les fils sacrifiés. Conformément aux usages médiévaux, Charles de Blois avait remis ses deux fils en otage pour garantir le paiement de sa rançon. Pourtant, malgré son serment, il reprit les hostilités avant que celles-ci ne soient intégralement réglées. Conséquence, Jean, l'aîné, ne fut libéré qu'en 1390, après plus de 30 ans de captivité, grâce en partie à Olivier V de Clisson. Guy, son cadet, disparaît des chroniques, effacé des mémoires. Pendant ce temps, la France est secouée par les chevauchées du prince de Galles. La guerre relancée. Profitant des tensions internes en France, Édouard III relance les hostilités. Son fils, le prince de Galles, futur prince noir, ravage le sud-ouest du royaume, annonçant une confrontation décisive. L'armée française, menée par Jean de Le Bon, est écrasée le 19 septembre 1356 à Poitiers. Le roi est fait prisonnier et envoyé en Angleterre, plongeant la France dans une grave crise politique. Son fils, Charles V, assure la régence pendant sa captivité. Ironie du sort, à peine Charles de Blois retrouve-t-il la liberté que Jean de la perd. Il faut attendre la signature du traité de Brétigny, le 8 mai 1360, pour que s'achève la première phase de la guerre de Cent Ans. Ce traité prévoit notamment la libération de Jean II contre une rançon colossale, la cession de vastes territoires à l'Angleterre sans hommage féodal, une trêve de 9 ans, la renonciation provisoire d'Édouard III à la couronne de France. La ratification du traité, le 24 octobre à Calais, intervient alors que Jean II, libéré sous condition, en confirme les termes. En garantie du paiement de la rançon, 40 otages sont remis aux Anglais, dont son fils cadet Louis d'Anjou, récemment marié à Marie de Blois, fille de Charles de Blois. Le versement, lent et partiel de la rançon, entretient une tension politique persistante. Dans ce climat d'apaisement relatif, les souverains encouragent discrètement les partis bretons à entamer des négociations de paix, afin de préserver leurs intérêts dans une région stratégique. Le refus des belligérants bretons. Jeanne de Penthièvre s'y oppose fermement. De son côté, le parti montfortiste rejette également cette proposition, refusant tout compromis qui ne garantisse pas leurs droits légitimes. Ainsi, malgré la pression des deux couronnes, la guerre de succession de Bretagne se prolonge, portée par la détermination inflexible de Jeanne de Penthièvre de ne pas diviser le duché. 1361, un mariage doré. Marie d'Angleterre, fille d'Édouard III, épouse en juillet 1361 Jean de Bretagne, héritier du duché et futur Jean IV. Cette union symbolise une alliance stratégique entre deux royaumes, dans un contexte marqué par la guerre et les rivalités dynastiques. La cérémonie, fastueuse, se déroule au palais de Woodstock. Pour l'occasion, Édouard III offre à sa fille une somptueuse robe de tissu d'or, bordée de 600 minivers, une fine fourrure blanche très prisée à l'époque et ornée de 40 hermines, symbole de pureté et de noblesse. Un faste qui souligne l'importance politique de cette union. Mais le destin est cruel. Peu après les noces, alors que le couple s'apprête à rejoindre la Bretagne, Marie tombe malade et meurt quelques semaines plus tard à l'âge de 16 ans.